Alors, pour ce soir, nous allons réfléchir ensemble, examiner la question suivante. Peut-on être juste quand les autres ne le sont pas ? Sujet, faut-il le rappeler ? C'est un des participants qui l'a proposé lors de notre café d'octobre. Et c'était un sujet qui lui trottait dans la tête depuis son baccalauréat. Bien. Mais après tout, il n'y a pas de... Ça peut être plus qu'intéressant de se pencher sur un sujet proposé aux futurs bacheliers, surtout sachant d'ailleurs, et il ne faut préjuger de rien, qu'il n'y a pas en soi de sujet philosophique. Tout peut amener, porter à la conceptualisation, hein, au travail du concept, et un sujet dit de baccalauréat peut très bien d'ailleurs être un sujet proposé dans des concours, dans de tout autre degré académique. Donc, laissons de côté toute appréhension, tout préjugé. Alors, peut-on être juste quand les autres ne le sont pas ? Alors, sans essayer de proposer, ce n'est nullement le but d'un café philosophique, un plan de dissertation, ce qui serait peut-être présomptueux d'une part et ennuyeux de l'autre, on peut toujours au passage remarquer que l'embrayeur de la question, pour employer un terme un peu pédagogique, c'est le verbe « pouvoir » qui ici, bien sûr, s'entend en deux acceptions. Hein, ça peut être d'ailleurs être une entrée dans le sujet. Peut-on, est-ce possible d'être juste quand les autres ne le sont pas ? Quelles sont les possibilités concrètes, morales, de l'exercice de la justice, ou de pouvoir se dire, ou être juste au regard de soi-même et des autres. Et puis, seconde acception du verbe dans cette question, peut-on être juste ? Est-ce au fond permis ? Et là, je dirais presque, est-ce raisonnable ? Est-ce souhaitable d'être juste quand les autres ne le sont pas ? Y a-t-il un sens à vouloir être juste si je suis dans une société, dans une cité, pour le dire comme les Grecs, laquelle serait corrompue, serait aux mains d'hommes iniques, foncièrement injustes ? Bref, y a-t-il un sens à être juste quand on est seul ? Parce qu'après tout, peut-on être juste quand les autres ne le sont pas ? Que faut-il entendre par les autres ? Et peut-être même émettre l'hypothèse, si je suis le seul à être juste, que faire ? Renoncer ? Ou, tel le Béranger de Ionesco, de Rhinocéros, résister et dire, selon la fameuse réplique qui clôt la pièce, « Non, je ne capitulerai pas ». Au fond, la question même, hein, le personnage de Ionesco, la question au fond de notre sujet. Deuxième approche, toujours de la question, parce qu'ensuite nous verrons ensemble toutes les réflexions, quels sont les concepts que nous pouvons mobiliser pour l'appréhender, pour l'élucider, c'est être juste. Il ne s'agit donc pas, si nous sommes attentifs à l'énoncé de la question, il ne s'agit pas de réfléchir sur la justice, encore moins sur le droit, même si bien sûr ces notions ne sont pas exclues de la problématique, mais de s'attarder sur le « être juste ». Et bien entendu, le verbe « être » par excellence est un verbe d'état, si bien que ici, il faut entendre « juste » comme une qualité qui m'est propre, qui me définirait, autrement dit, non pas être, mais être, se conformer à la loi, même si bien sûr la question l'implique, mais être juste, juste pris comme une vertu. C'est bien de la vertu de justice dont, me semble-t-il, il est question dans notre sujet. Et peut-être l'oublions-nous parfois, car nous sommes dans une société où, quand on parle de justice, nous sommes, je dirais, dans une approche très juridique, qu'avant toute chose, dire être juste ou injuste est une question de vertu ou d'absence de vertu, par conséquent, selon Aristote, de vice, pris au sens aristotélicien. Enfin, bien sûr, mais nous allons y venir, la question des autres pose la question d'un être ensemble, d'une communauté, voire d'une cité, et la question pose, bien sûr, une question du politique, non pas de politique, mais du politique, et il ne faut pas s'en étonner, si d'une part, toute réflexion philosophique à son origine est une réflexion d'élaboration d'une juste politique, et si bien sûr, pour ceux qui, les premiers, ont conceptualisé la question, les Grecs, l'exercice des vertus, cet exercice ne peut se pratiquer, ne peut se penser que dans le cadre d'une cité, que dans le cadre de la police. Alors bien sûr, et sans pour autant dédaigner, négliger une pensée contemporaine, nous y verrons, il me semble que nous ne pouvons pas faire ce soir l'économie de la réflexion des philosophes grecs et bien entendu des deux plus grands d'entre eux, Platon et Aristote, sur la question, parce que l'on pourrait dire même que c'est une question platonicienne et aristotélicienne par excellence, et même, sans emphase, que c'est peut-être l'une des questions majeures de la philosophie ou de l'exercice philosophique, si, aussi bien selon Platon et selon Aristote, le philosophe est par excellence l'homme juste, l'homme qui pratique cette vertu de justice. Je vous renvoie d'ailleurs au livre 2 de La République. Et si je renvoie au livre 2 de La République, c'est pour la raison simple que La République, bien sûr, est parfois présentée comme un ouvrage d'utopie politique, ce qui est d'ailleurs un contresens. Il ne s'agit ni d'une utopie au sens exact du terme. Et si effectivement c'est une réflexion sur la cité idéale, et encore l'adjectif idéal me semble un peu trop moderne, être presque un néologisme, c'est bien sur l'organisation la plus juste de la cité. Or, pour Platon, et d'ailleurs de manière différente pour Aristote, ce souci d'une société juste n'est nullement je ne sais quel idéalisme un peu creux, un peu fumeux, qui serait inaccessible, mais bien ce qu'il y a de plus réel au regard de la vérité, de la possibilité des hommes, ensemble, en société. Donc je dirais que c'est tout le contraire d'une utopie, et comme le soulignait le philosophe Alain, il n'y a pas plus diamantin, il n'y a pas plus réel et aussi beau qu'un diamant que la République de Platon. Alors, pourquoi ce livre 2? Car dans le livre 2, il est question de deux choses. D'une part, et là on voit bien que Socrate n'est nullement un idéaliste, il n'est nullement dans les nuées, va poser d'une manière très claire et qui pourrait presque sembler provocante, presque heurtée au regard d'un certain politiquement correct qui sévit de nos jours, qu'effectivement, être juste n'est vraiment l'affaire de peu de personnes et, au fond, quasiment de personne. C'est-à-dire que c'est bien être injuste qui, dans un premier temps, attrait les hommes. Ou alors être juste, mais être juste seulement dans un semblant de justice. Et Platon, ou plutôt Socrate, on veut la preuve, la République, bien entendu, c'est l'allégorie de la caverne, mais c'est de très nombreux récits, de très nombreuses métaphores qui sollicitent notre pensée, qui sollicitent notre imagination et nous permettent de mieux amener les concepts. Et la République, le livre 2, c'est l'anneau de Gyges. C'est ce berger qui, dit-on, après un orage, un rocher foudroyé, va trouver un anneau. Et il le passe au doigt, tourne le chaton. Nous sommes presque comme dans un conte, mais très souvent chez Platon, la philosophie, c'est un conte. Et cet anneau, diable, le rend invisible. Il est invisible. Il est invisible et il est berger, c'est-à-dire pas au plus haut de la société. il s'aperçoit qu'étant invisible, il peut commettre tous les actes qu'il veut, on ne sait pas qui les commet. Que faire ? Lui, il paraissait pour le bon berger, juste, respectons son roi, respectons les lois de la cité. Un bon berger avec ses semblables, les autres bergers, les autres citoyens. Mais au fond, il n'en est rien, c'était qu'il craignait les lois, il craignait d'être, je dirais, châtié s'il ne les respectait pas. Mais maintenant qu'il est devenu invisible, Gigès, pourquoi continuer à être juste ? Eh bien, il devient un homme considérablement injuste. Et il vole, bien entendu, il assassine, il arrive au pouvoir, il devient même lui-même le roi, et il ne s'en plaint nullement. Car, au fond, être un scélérat lui réussit parfaitement. Et l'un des interlocuteurs de dire à Socrate, au fond, mais pourquoi se poser la question d'être juste alors que dans la cité, et les Grecs ne parlaient pas de société, mais au fond c'est la même chose, si on veut quasiment réussir, il est peut-être bien mieux d'emprunter des voies scélérates, surtout si on a l'art et l'habileté de passer pour juste, ce qui est peut-être plus habile encore et permet de mieux réussir. Donc on voit que Platon est bien le dernier des idéalistes. Et pourtant, il ne va pas, je dirais, en rester là. Car comment alors Socrate va-t-il pouvoir soutenir que nonobstant, je dirais, ces faits, nonobstant malheureusement cette évidence, faut-il relire, faut-il se remémorer les animaux malades de la peste de La Fontaine, selon que vous serez grand ou petit, hein, les jugements vous feront blanc ou noir. Hein, souvenez-vous du pauvre âne qui a brouté un peu d'herbe et finalement le renard convainc le lion que c'est lui le coupable et c'est à cause de son crime que la peste s'abat. Et le pauvre âne est bien entendu dévoré par les autres animaux. Voilà, on pourrait dire qu'une première leçon ou une philosophie qui serait cynique, pas au sens de Diogène, dirait, eh bien, si les autres ne le sont pas, est-on également injuste avec les autres, encore plus que les autres. Et néanmoins, Socrate va poser que non seulement être juste est possible, mais nécessaire au regard, effectivement, je dirais, de la structure de l'âme et au regard de la maîtrise de soi. Si bien qu'être juste, c'est peut-être mesurer, effectivement, ses appétits et considérer que si tout le monde, effectivement, devient gigès, quelque part, trop de gigesse s'annule et on retombe dans ce que Hobbes dira des siècles plus tard, un état de nature où l'homme est un loup pour l'homme. Si bien qu'on le voit bien que nous dit Socrate, poser la question d'être juste n'a de sens que par rapport à ses semblables et que par rapport à la cité. Combien même celui qui serait juste passerait d'ailleurs pour un fou, voire serait persécuté, il est intéressant de se rappeler que toujours dans ce livre 2 de la République, Socrate nous dépeint le juste comme l'homme qui risque de finir fouetté, torturé, les yeux brûlés et empalé ou, selon les traductions, crucifié. Vous comprendrez d'ailleurs que bien des siècles plus tard, les pères de l'Église se soient appuyés, je n'ai pas besoin d'ailleurs d'y insister, entre autres, sur ce passage de la République de Platon et sur le livre 2, le fameux juste persécuté. Hein, la figure du juste persécuté, car justement, il se retrouve seul et passe au mieux pour un fou, au pire pour une personne que l'on doit éliminer et, comble d'iniquité, désigner comme l'injuste. Donc c'était peut-être pour rappeler, je dirais, le réalisme de Platon et le réalisme de la République, trop souvent, je dirais, quelque part un peu occulté dans des brumes ou dans des lectures un peu vaporeuses de l'œuvre de Platon et de la République en particulier. Et pour Aristote, la justice est l'être juste est une vertu. Donc c'est bien de la question de vertu, donc il est affaire. Et vertu en grec se dit arrêter. Arrêter. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de dire comment vertu est en grec, ce serait d'ailleurs assez vain, Mais arrêté signifie excellence, perfection quelque part de l'être. Être vertueux, c'est être dans une excellence. Et par rapport à une finalité, c'est-à-dire à un projet de ce qu'est l'être. Voilà le sens de la vertu pour Aristote. Mot également aujourd'hui, je dirais, quelque peu oublié. On n'emploie plus tellement le mot vertueux. Hein. C'est un mot qui est quasiment devenu hors d'usage, je dirais. Eh bien, pour Aristote, la vertu, justement, est l'excellence même de l'homme, ce à quoi d'entendre l'homme. Et Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, particulièrement au livre 7, va déterminer les principales vertus qui deviendront des siècles plus tard les vertus cardinales. Mais il ne faut pas oublier que les vertus cardinales proviennent directement des Grecs et tout particulièrement d'Aristote et d'une redistribution par rapport à la République de Platon, à savoir le courage, à savoir la tempérance, ce qui n'est pas forcément une vertu de saison de nos jours, à savoir la prudence, laquelle doit s'entendre non pas comme je ne sais quel sentiment un peu pusillanime, où il faut être prudent, faisons attention, ne prenons pas de risques, mais bien la prudence comme cet art qui définit par excellence le politique, autrement dit pour les Grecs la sagesse, à savoir prévenir ce qui peut arriver, savoir au moment opportun prendre une décision et une juste décision. Voilà ce qu'est la prudence pour les Grecs, la phronesis. Et enfin, la vertu de justice. Donc, peut-on être juste quand les autres ne le sont pas? Peut-on être vertueux quand les autres ne sont pas? Est-ce que la vertu peut être un exercice solitaire? Ou combien même je serai seul? Est-ce que cette vertu de justice est une nécessité? Et au nom de quoi? Et toujours chez Aristote, la vertu se définit comme un juste milieu, non pas un juste milieu, là non plus, dans le sens d'une aimable médiocrité, ne faisons pas d'excès, hein, à la limite, je dirais, pas trop de poivre, pas trop de sel. Non, là, le juste milieu chez Aristote, c'est le point d'exactitude d'une question, le point d'exactitude d'une situation, le point d'exactitude d'un être, le point d'exactitude d'une essence. Ce qui signifie que vous avez toujours deux bords de la vertu, un bord par excès, un bord par défaut. Quelque part, l'excès de courage et la témérité, mais ce n'est plus une vertu, c'est un excès, et par défaut sera d'être pusillanime. Le juste, quant à lui, la vertu du juste, va donc être dans toute situation cette vertu. Alors, en quoi consiste cette vertu? Eh bien, distinguée de la conformité aux lois, et bien entendu, ni Platon ni Aristote ne remettent en question les lois, même si certaines lois peuvent être injustes ou iniques, et là c'est une réflexion sur ce qu'est le légal, légale ou légitimité, ça peut être un autre aspect de notre question, eh bien, cette vertu de justice s'entend comme l'équité qui, pour Aristote, s'entend de deux manières, soit la justice dite distributive, soit la justice dite corrective. Ces deux distinctions seront fondamentales dans l'organisation du juridique pendant, je dirais, des siècles et des siècles en Europe. Hein, entre le distributif et le correctif. Que faut-il entendre par là? Le distributif, les deux sont éminemment politiques. Il n'y a pas pour Aristote ni pour Platon de vertu autre que politique. Si au fond j'étais un dieu, dans ma solitude, dans ma perfection d'être un dieu, je n'aurais pas besoin de vertu. Les dieux ne sont pas vertueux, ils sont dans cette vie divine auquel parfois le héros chez les Grecs peut prétendre ou attendre. La bête, l'animal, lui non plus, n'est ni vertueux ni non vertueux. Je dirais, il est tout simplement dans son essence. Seul l'homme, justement, n'étant, et Pascal s'en souviendra, ni Dieu ni bête, est éminemment politique, c'est-à-dire vit ensemble dans une société, combien même il se retirerait, il est encore fait de ce que sont les autres, et par conséquent, la vertu n'a de sens que politique, c'est-à-dire avec les autres. Donc, quand les autres ne le sont pas, n'est pas, je dirais, une option, mais est au cœur même de la question. Alors, la justice distributive, c'est quelle répartition, quel souci d'équité entre les membres de la cité, sachant que selon Aristote, il s'agit moins d'une égalité niveleuse que d'une proportion exacte selon, je dirais, les besoins, les capacités ou les excellences de chacun. Donc on voit qu'il y a une notion de proportionnalité à la notion d'être juste. Et quant à la justice corrective, il s'agit de redresser un tort, c'est-à-dire de rétablir un équilibre, une proportion. Et pour Aristote, cette justice est plus arithmétique. Il est intéressant de voir comment la notion d'équilibre, d'harmonie, de proportion, ces notions sont inhérentes à la vertu de justice, qui est une vertu de mesure, qui est une vertu de logos, que l'on pourrait rendre par une vertu de raison. Autre chemin pour notre réflexion, cette fois dans une approche platonicienne, la société est inique, est injuste, car les hommes en eux-mêmes le sont. Et la première réforme d'une société est la première réforme de soi-même. À partir de ce moment-là, on comprend mieux que le propos de Socrate dans la République est de dire « Commençons effectivement par nous rectifier nous-mêmes si nous voulons quelque part rectifier la cité. » Au fond, la meilleure cité, le meilleur gouvernement, ne peut être le gouvernement d'hommes justes qui sont déjà justes avec eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont équitablement réparti et maîtrisé leurs passions, ce qui quelque part leurs appétits, ce qui nous domine. On pourrait, dans une autre perspective, je dirais plus moderne dans la philosophie, et le sujet l'appelle, poser au fond la question, notre concept, celui de l'universalité, et là, comment ne pas penser, bien entendu, à Emmanuel Kant. Et ça sera d'ailleurs ma dernière, je dirais, référence. Kant est, pourquoi pas, les fondements de la métaphysique des mœurs, ou critique de la faculté de juger, critique de la raison pratique, très précisément. Pourquoi ? Pour Kant, une maxime morale n'est valable que si elle est universelle. Et selon lui, pour apprécier, pour juger d'une action, il faut la rapporter au critérium de l'universalité. Et se demander, est-ce que cette action peut-elle être, je dirais, accomplie par tous, faite par tous. Prenons un exemple très simple. Bien entendu, il peut parfois être tentant, commode de voler, ou même pour prendre un exemple, je dirais, peut-être plus dans un cadre plus scolaire, de tricher. Mais à supposer que tout le monde se mette à voler ou que tout le monde se mette à tricher, c'est-à-dire que je ne puisse plus distinguer le vrai du faux ou que je ne puisse plus avoir la moindre sécurité de mes biens, à ce moment-là, vous comprendrez, nous dit Kant, qu'effectivement, la société vacille sur ses fondements. Par conséquent, pour lui, à ses yeux, tout être juste, la question ne se pose pas si on veut être conscient, et pour reprendre la dissertation qui avait été autrefois posée sur peut-on être juste quand les autres ne le sont pas, non bien sûr dans la perspective, oui bien sûr dans la perspective kantienne, puisqu'être juste pour Kant n'est pas seulement comme les Grecs une vertu, mais devient un devoir et devient même le fondement de la raison, autrement dit de l'impératif catégorique. Si j'agis selon la raison, je me dois agir selon l'universel. Par conséquent, combien même je serai seul, je dois me conformer à cet impératif d'universalité. Voilà ce qu'est l'impératif catégorique. On voit bien comment, selon l'approche éthique des Grecs, ou selon l'approche morale, au sens moderne, catégorique kantienne, on peut traiter, reformuler de la question. Et enfin, je disais, pour commencer, pour frayer quelques chemins, que c'était peut-être la question, une des questions, il n'y en a jamais une seule, une des questions essentielles de la philosophie. Effectivement, peut-être que la philosophie est née par rapport à une réponse, je dirais, à la tragédie. On dit d'ailleurs que Platon aurait eu le talent, je dirais, le génie de Sophocle, et qu'il aurait, après la mort, je dirais, inique de Socrate, détruit ses tragédies pour se consacrer à la philosophie. Vaste question, qui bien entendu n'est pas ici, je dirais, l'objet du débat, mais peut au moins retenir notre attention sur un point. Dans la tragédie, et j'entends bien sûr la tragédie grecque, il n'est question que de justice. Mais d'une justice, je dirais, archaïque, à savoir la vengeance. J'étais, parce que peut-être certains d'entre vous le savent, un grand passionné d'opéra, et j'avais la chance, enfin j'avais le plaisir d'assister à Electra de Richard Strauss, qui reprend tout simplement l'Électre d'Eschyle, ou de Sophocle d'ailleurs, ou d'Euripide, à savoir le moment de l'Orestie. Et donc, cette vengeance qui touche la famille des Labacides, Clytemnestre a de manière inique sacrifié Iphigénie pour avoir des vents favorables, mais bien sûr, Clytemnestre, ne pouvant souffrir le sacrifice inique de sa fille, a tué avec son amant Égiste Agamemnon. Et bien sûr, Électre, prenant en haine sa mère, prise par cet effroi, par cette horreur, n'a de cesse de la venger avec son frère Oreste, qui sera le bras vengeur et qui, à son tour, va tuer Clytemnestre. Et on voit bien que là, dans cette première justice, je dirais dans cette justice archaïque qui fait que je te fais ce que tu m'as fait, on est quelque part dans une vengeance qui se nourrit d'elle-même. Et les Grecs avaient justement ces divinités infernales, les Erinnyes, qui poursuivaient. Or, Oreste est poursuivi par les Erinnyes. On est véritablement dans l'effroi tragique. Et l'Orestie se termine, qu'Apollon décide qu'au fond, ce cycle perpétuel de vengeance se termine et, au fond, il est censé, c'est la légende, d'avoir créé le tribunal de l'aéropage où siège des sages pour pouvoir rendre avec la raison la justice, donc exercer une vertu. Et à partir de ce moment, nous dit Eschyle, nous dit la tragédie, les Erinnyes deviennent les Euménides, c'est-à-dire les bienveillantes. Et donc, ce cycle archaïque d'une justice, je dirais, sans vertu, où la vengeance s'exerce de génération en génération, et c'est le fait même de l'essence du tragique, on substitue quelque part le tribunal d'une raison et d'une vertu, ce qui peut aussi s'appeler, pourquoi pas, la philosophie, et ne pas oublier que si le philosophe par excellence, je dirais le patron des philosophes, c'est Socrate, Socrate est condamné uniquement par la démocratie d'Athènes, par la démocratie athénienne, et au lieu de venger Socrate, et n'oubliez pas que Socrate, dans le Phédon, quelque part se soumet à ce décret inique et interdit à ses disciples de le venger, à partir de là, Platon y substitue la vertu de justice, qui n'est autre que pour lui la vertu de questionnement et la vertu du philosophique. Voilà quelques remarques que m'ont, je dirais, suscité, inspiré ce sujet autrefois, je crois, mais ce n'est pas une indiscrétion de le dire, sur lequel se pencha il y a quelques années Philippe, quand ce dernier, voilà, ça, son baccalauréat. Bien. Alors, est-ce que ça...